France Inter. .fr.
Bonjour, je reçois aujourd'hui Amos Gitai, le réalisateur israélien hanté par l'architecture, les arts plastiques, la mémoire, la guerre et la paix. Un artiste engagé, féru de musique, allant d'Annie Lennox et Eurythmics à celle qui nous intéresse aujourd'hui, la musique classique, mais qui est d'ailleurs bien souvent contemporaine, puisque nous entendrons aujourd'hui Villa-Lobos, Berlioz et Yann Garbarek. Mais également dans un registre plus classique, Mahler, Beethoven et Bach. Une heure donc pour découvrir cet intellectuel israélien, issu de l'intelligentsia Mittel-Europa, marqué par les idées socialistes des pionniers de l'État hébreu, réalisateur de près de 90 œuvres cinématographiques, documentaires, longs et courts-métrages, dans cette quête permanente de raconter, nous faire vivre et réfléchir. Amos Gitai est de passage à Paris et je suis donc très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Amos Gitai.
Bonjour.
Donc, on le disait, beaucoup d'œuvres, 90, et où la musique ne semble pas, en tout cas de prime abord, comme ça, primordiale. Mais néanmoins, avec cette culture qui est la vôtre, forcément, j'avais envie de connaître vos goûts musicaux qui sont plutôt contemporains.
Effectivement, moi je suis souvent inspiré par la musique. J'étais formé comme architecte. J'étais supposé de suivre le travail de mon père, qui était architecte de Bauhaus.
Très connu.
Qui était élève de Mies van der Rohe, de Kandinsky.
Et qui a construit une partie de Tel Aviv, d'ailleurs.
Oui, et de Jérusalem aussi, et Haïfa. Surtout Haïfa et les kibbutz. Mais effectivement, dans la maison de mes parents, la musique, c'était, on peut dire, l'expérience artistique principale, avec le théâtre, la littérature et pas tellement le cinéma. Alors, j'ai devenu cinéaste beaucoup plus tard.
On va commencer par votre premier coup de cœur musical. Je ne sais pas si c'est celui-là vraiment. En tout cas, on va ouvrir l'émission avec celui-là. C'est Villa-Lobos, les Bacchanas Brasileiras par Barbara Hendricks. Alors, c'est vraiment le morceau le plus célèbre du compositeur. Très intéressant parce que, en fait, au départ, c'est un chant vocal qui est plutôt psalmodié. Plus tard viennent des paroles qui décrivent la beauté du ciel. Pourquoi vous avez fait ce choix à Amos Gitai?
D'abord parce que je travaillais avec Barbara Hendricks pour mon film Désengagement. C'était une très belle expérience. On cherche toujours un autre projet.
Une femme très engagée, elle aussi. Hein?
Oui, parce qu'on était récemment dans le festival des Human Rights à Genève. On était coparents pendant un grand moment.
Mais coparents?
Oui, tout à fait. Mais je trouve que Barbara, effectivement, c'était une expérience très agréable de travailler avec elle. Elle a adapté peut-être un morceau de musique qu'on va écouter tout à l'heure, le chant de la terre de Gustav Mahler dans mon film Désengagement. Et Villa-Lobos, parce que je trouve qu'il y a toujours un travail d'interprétation. Alors, il s'appelle Bacchanas Brasileiras, parce que c'est en référence à Bach, bien sûr.
On l'écoute donc, cette œuvre composée en 1938, véritable vocalise interprétée par Barbara Hendricks et avec une guitare, parce qu'il avait retranscrite aussi pour guitare et violoncelle.
Oh,
Baquenas Brasileiras, c'est le numéro 5, interprété par Barbara Hendricks et Manuel Barueco à la guitare, pour parler avec vous, Amos Gitai, de cette vie riche qui est la vôtre. Vous êtes né dans une famille, on pourrait dire, de gens très modernes. Votre père, donc, on le disait à l'instant, architecte du Bauhaus. Votre mère qui est allée étudier à Vienne auprès de Sigmund Freud. Donc tout ça au début du XXe siècle. Et c'est l'histoire, c'est une histoire d'amour qui naît où alors, Amos Gitai, entre votre père et votre mère?
C'est-à-dire, ma mère, elle est née en Israël, en Palestine d'époque. Elle est fille de pionniers juifs et socialistes et russes qui immigraient en 1906. La mythologie...
Donc au début du sionisme, enfin de ce qu'on...
Ouais. Ouais. La mythologie familiale dit qu'ils sont pris en bateau d'Odessa vers Alexandrie, et d'Alexandrie par chameau jusqu'à Jaffa. Mm. C'est à l'époque il y avait 50 000 juifs en Palestine, mais c'est vraiment les gens qui créent les fondations de beaucoup de choses qui sont que j'aime beaucoup à ce pays, c'est-à-dire un pays laïque, attaché à son identité, mais laïque, pas trop religieux, avec toute l'idée de kibbutz, de grande innovation sociale. Et ma mère était née dans ce contexte-là, mais comme elle avait 18 ans, elle a senti que c'est un peu provincial. Alors avec des copines, ils sont achetés des billets pour le bateau, pour aller à Vienne, pour voir Freud. Et elle a resté jusqu'en 1932, parce qu'en 1932, elle a voyagé à Berlin, elle a vu Hitler en train de faire un speech à Alexanderplatz, elle a pris les bonnes décisions de rentrer. Alors effectivement, elle est une sorte de témoin de cette grande histoire avec grand H, des grands drames du XXe siècle. Et Gallimard, ils n'ont pas oublié ses lettres. Et j'ai eu l'énorme plaisir que Jeanne Moreau ait décidé de registrer 9 épisodes, 9 feuilletons, un grand feuilleton. Jeanne Moreau, c'était formidable. Mon père... C'est un immigrant.
Donc lui, il était en Allemagne.
Il est en Allemagne. Goebbels ferme le Bauhaus. Il déteste l'architecture moderne. Il veut l'architecture pompeuse de Speer. Et ils ont choisi 4 étudiants. Ils étaient battus. Ils ont cassé ses dents. Ils étaient emprisonnés. Très tôt, en 1933. Qui était le sujet d'un expo que j'ai fait à Palais de Tokyo il y a quelques temps. Alors, 1933, c'est possible de sortir de prison. Elle était jetée sur les frontières suisses, pas loin de Bâle. Ses amis de Bauhaus, qui étaient proches à Paul Klee, l'ont reçu à Bâle. Mais comme les Suisses commençaient de rendre les Juifs allemands aux Allemands, il a décidé de prendre le bateau, d'aller en Palestine. Et là, il raconte à ma mère. C'est le début de cette histoire.
Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi les folk songs de Berlioz? En tout cas, moi, je me disais, ça pouvait symboliser cette union et cet amour entre votre père et votre mère, l'union entre Berlioz et Cathy Berberian. Cathy Berberian, pour laquelle il a composé nombre de morceaux. Et ces folk songs, qui sont ces chants folkloriques d'amour, hein, essentiellement. Moi, j'ai choisi le Azerbaijan folk song, puisque c'est une chanson d'amour qui compare d'ailleurs l'amour à un poêle à chauffer, parce que c'est une chanson qui se passe là-bas, en Azerbaïdjan. Vous, pourquoi vous vouliez nous faire entendre Berlioz?
D'abord, Elsa, vous avez choisi de commencer par l'interprétation par des voix féminines que j'aime beaucoup. On peut même ajouter une chose beaucoup plus récente comme The Great Gig in the Sky de Pink Floyd, cette sorte de cri vers le ciel.
Extrait de l'album The Dark Side of the Moon.
Moi, j'aime beaucoup cette série d'interprétations féminines de... avec cette voix, et Cathy Berberian, elle est vraiment formidable, interprète de Luciano Berio.
Et c'était une histoire aussi d'amour qui a duré quelque temps, à l'image de celle de vos parents. Ils ont été longtemps amoureux?
Oui. Ya
На плече курши с водой, ах, кругом шо на камаши, ах, постой, ханум, постой, жар души, ма не потуши. Гоша да махай, ма намаз, яр, гоша да махай, ма намаз. Гоша да махай, ма намаз, яр, гоша да махай, ма намаз. Сен ордан, шокман, бордан, сен ордан, шокман, бордан, Не диш дом и кти не дит, пусть не детство в руса ходит, учту будит. Ай, палам, сьора делим, шести снова.
Azerbaijan Love Song de Luciano Berio, enfin en tout cas retranscrit par Luciano Berio et interprété par Cathy Berberian, qui en plus a reproduit phonétiquement ce qu'elle ne comprenait pas et qui donne à ce folklore encore plus d'entrain. Pourquoi les voix féminines alors à Mosquitaï?
Vous savez, j'ai fait beaucoup de films avec des actrices, Kadosh avec Yael Abekassis, Metal Barda, Alila aussi avec Yael Abekassis, des engagements avec Juliette Binoche, Jeanne Moreau, Natalie Portman. Je pensais que comme tu m'as invité de cette émission, on va faire un brochette d'interprétation.
Des voix féminines.
Voilà.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Alors, ce qui est très fascinant aussi à Mosquitaï dans vos choix musicaux, c'est que on sent que tout ce passé, toute cette Europe dont je parlais au début, là, la Mitteleuropa, est très présente à la fois dans vos œuvres et en vous encore aujourd'hui. L'histoire de vos parents, vous la portez ?
Je crois plutôt que porter, je crois que je suis inspiré, parce que c'est pas strictement un geste sentimental, c'est des gens qui dessinent d'une quelque façon une attitude qui, moi, je trouve très proche, moderniste. Et comme on a d'une époque assez réac, c'est bien de voir des références modernes, et laïques, et pas strictement les masses de kitsch qu'on a. Alors, je l'aime tous les deux, chacun à sa façon. Mon père, c'est plutôt le visuel, l'architecture. Et ma mère, les narratives, l'histoire, etc. Mais tous les deux attachés à cette vision moderne.
Alors, on va retourner à Vienne, hein, entre 1809 et 1909. Avec cette symphonie lead qui s'appelle Le Chant de la Terre, Der Lied von der Erde, que a composé Mahler, qu'il a pas eu la chance de pouvoir voir jouer, mais qui est devenue l'œuvre la plus appréciée de Mahler. Avec ce dernier mouvement qui est Abschied, qui veut dire l'adieu, et qui raconte cet homme qui marche, qui parcourt les montagnes, qui cherche le repos pour son cœur solitaire. Alors, on lui demande où il va. Il dit marcher vers son pays, sa demeure. Alors, ça fait penser aussi à la diaspora, à Mosquitaï.
Ouais, je crois qu'on a besoin toujours, chacun a besoin d'une diaspora, c'est-à-dire la terre promise, toutes les terres promises, parce qu'il n'y a pas seulement une seule terre promise, il y a beaucoup de peuples élus, il n'y a pas un seul, il y a beaucoup de terres promises, mais on a besoin de marcher de part de quelque part, et je crois que le dialectique entre diaspora et terre natale, il est nécessaire, alors les gens, comme certains politiciens d'une façon démagogique, qui appellent tout le monde de rentrer chez elle, c'est un peu simpliste et ça annule cette richesse énorme et aussi nécessaire dans laquelle le rapport diaspora et pays natal nourrit cette sorte de réflexion.
Alors vous, pourquoi l'avez-vous utilisé dans l'un de vos films à Mosquitaï?
Non, c'est effectivement j'ai utilisé dans Désengagement, qui est un film qui parle de séparation de la Terre, adapté par Simon et Marcus Stockhausen, avec laquelle je travaillais souvent, avec Barbara Hendricks comme interprète.
Alors là, on va l'écouter, dirigé par Sir Simon Rattle, et des voix d'hommes pour l'instant.
Tant pis pour vous.
Avec des voix d'hommes. Donc, Peter Seifert et Thomas Hampson, c'est quand même pas mal non plus. Hein. Der Lied von der Erde. Amos Gitai, nous écoutions Le chant de la terre, Abschied, de Gustav Mahler. Et ça nous emmène vers le métier vers lequel vous vous destiniez au départ. Ce n'était pas du tout réalisateur. Vous deviez faire comme votre père, architecte, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez?
Non, comme plusieurs gens de ma génération, j'étais envoyé à la guerre de Kippour en 1973. J'étais déjà étudiant d'architecture. Mon père était décédé déjà dans cette époque. Et à mon retour, parce que j'étais dans un hélicoptère qui était battu par un missile syrien, mon copilote était mort. Et graduellement, je sentis que l'architecture était un métier un peu trop formel, que j'avais besoin d'un médium avec lequel je peux exprimer les choses que je sente.
Parce que ça, vous êtes un rescapé finalement, si j'ai bien compris. Le fait d'avoir survécu à ça, vous avez éprouvé le besoin d'exprimer quelque chose directement.
Oui, parce que je trouve que Israël, à la fois, c'est un endroit, c'est un pays très touchant, mais il y a des fois des choses très troublantes. Et j'étais envie d'articuler ça, pas strictement par le design de l'architecture. Aussi, l'architecture, dans cette époque, j'ai senti qu'elle s'éloigne de cette grande époque dans laquelle l'architecte aussi trouvait que c'est intéressant de dessiner des appartements pour des 70 mètres carrés ou 50 mètres carrés, mais d'être impliqué avec leur talent de designer aussi des choses très modestes. Alors, ils sont allés plus vers des choses très flashy, très...
plus brillant.
Très, voilà, dans les icônes visuelles est devenu trop, trop fort. Et pour moi, la grande architecture, c'est aussi, il y a un aspect visuel, mais c'est pas strictement le visuel. Alors, j'ai commencé à faire des courts-métrages, des Super 8, après des 16 mm. Et après, j'ai commencé à faire des films d'une façon plus concentrée. C'était vraiment cette transition était intéressante parce que l'architecture a nourri toujours mes réflexions, même comme cinéaste.
Oui, on va pouvoir en parler. Avant cela, je vous propose d'écouter trois danses pour deux pianos préparés de John Cage. Je me disais que ça devrait vous plaire. L'enregistrement date pile du moment de la guerre de Kippour. On est en 1973. Et cette façon de donc préparer les pianos, de mettre des pièces dessus pour faire sonner différemment. Et puis aussi cette volonté de séquencer la musique. Je me disais que ça pouvait vous intéresser, vous qui aimez la modernité et le côté expérimental. Ça vous plaît, John Cage ?
Très bien, très bien.
On écoute. Three Dances for Two Amplified Prepared Pianos de John Cage. Et c'est interprété par Ralph Grierson et Michael Tilson Thomas, un enregistrement de 1973. Dire qu'ils sont en train de jouer sur des pianos, c'est un peu difficile de se l'imaginer, non, à Mousguitaï?
Non, moi je trouve qu'effectivement c'est une époque aussi géniale d'expérimentation, de liberté. Moi j'étais à Berkeley tout de suite après.
aux États-Unis.
J'avais effectivement cette sorte d'explosion d'énergie, de créative, de dans tous les domaines. Et aussi, j'ai fréquenté des classes de philosophy of science, de musique. C'est-à-dire cette synthèse entre l'art. Et je crois que chaque artiste doit être nourri par tout l'aspect, c'est-à-dire la réflexion intellectuelle, mais aussi artistique, musique, peinture, architecture, etc.
France Inter, vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Amos Guitaï, vous avez dit donc que vous avez choisi la caméra pour exprimer ce que vous ressentiez. Qu'est-ce que vous vouliez particulièrement exprimer? Parce qu'on dirait, quand on regarde votre filmographie, qu'au fond, vous êtes un artisan de l'engagement avec le cinéma tout au long de votre carrière.
Moi, je trouve que, vous savez, le cinéma ou l'art, il y a un aspect visuel formel, mais il y a un aspect narratif et thématique. C'est-à-dire un film qui raconte strictement, même d'une façon didactique, une belle pensée politique sans occuper de la forme. C'est-à-dire en prenant une forme réactionnaire, c'est un film réactionnaire, même s'il dit des choses très positives, humaines, etc. Et un film qui part strictement de la forme, sans voir aucune discours, réflexion sur les conditions dans lesquelles on vit, il est aussi. Alors, je trouve qu'effectivement, il faut marcher sur ces deux pieds. Et je crois que cette dialectique entre la forme et les thématiques narratives, sans être didactique, il est nécessaire. Et je crois que dans tout le domaine, c'est-à-dire, on peut pas oublier le texte qu'il a écrit Isaac Babel, le grand écrivain, qui était persécuté par Staline, comme il était mis devant le congrès d'écrivains soviétiques, et qu'il a dit que le seul droit que l'écrivain, il doit jamais céder, même à la comité centrale, c'est d'écrire des mauvaises, entre guillemets, littérature. C'est-à-dire que il faut que l'art garde cet aspect, on peut dire, subversif ou de questionnement des réels, parce qu'avec ça, il fait avancer la réflexion et c'est le vrai privilège et nécessité pour l'artiste. Ouais.
Alors, vous avez interrogé la religion, la politique aussi, dans votre dernier film, Rabin, The Last Day, Amos Guitaï, où vous êtes allé loin, puisque vous êtes retourné sur ce moment, ce jour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui a quand même compromis largement les accords de paix en Israël. Donc, ça date d'il y a plus de 20 ans maintenant, déjà. Et du coup, on va écouter la 9e symphonie de Beethoven, interprétée, dirigée par Daniel Barenboim, qui d'ailleurs a participé.
Oui. Non, j'ai appelé Barenboim, comme je savais que je vais faire le film sur l'assassinat de Rabin. Il était à Berlin. Et je lui ai dit, Danny, j'ai envie de venir enregistrer quelques notes de piano pour ce film qu'on va être recomposé par Amit Poznanski, un jeune musicien très, très talentueux en Israël. Il m'a dit tout de suite oui. On était allé à Schiller Theater à Berlin. Après, il a vu aussi le film. Et je crois que Barenboim aussi, à sa façon, il essaie de construire un pont dans cette région très conflictuelle avec le travail de culture et de son orchestre divin, malgré que c'est pas évident. Il y a toujours un bel dialogue entre les gens de l'art, de la culture, malgré toutes les choses qu'on trouve autour.
Alors en plus, on va écouter la 9e symphonie de Beethoven, peut-être la plus humaniste des symphonies de Beethoven, qui était un grand humaniste lui-même, interprétée donc par ce Western Eastern Divan Orchestra, qui a été monté en 99 par Edouard Saïd et Daniel Barenboim, avec cette envie de faire collaborer des Palestiniens, des Arabes et des Israéliens dans un même orchestre avec cette symphonie pour la paix. Finalement, c'était un beau choix de votre part.
Thank you.
Molto vivace de la symphonie numéro 9 en ré mineur, opus 125 de Ludwig van Beethoven, interprété par le West Eastern Divan Orchestra, dirigé par Daniel Barenboim. Et pour poursuivre avec vous, Amos Gitai, sur cette paix qui n'a pas pu se faire, on le comprend très bien dans votre dernier film, Rabin the Last Day. Et au fond, cette question de la paix, cette question de comment se réconcilier ou divorcer d'ailleurs, c'est une question qui est là sous-jacente depuis très très longtemps.
De toute façon, le divorce n'est pas une option parce que le divorce, dans les termes des nations, c'est une guerre. Mmh. Alors il faut trouver un tissu de coexistence. C'est pas évident si on voit les choses autour du jour d'aujourd'hui, mais il faut garder l'espoir. Écoute, l'Europe sort de un cauchemar très long de deux grandes guerres mondiales. Et ils ont quand même fait quelque chose pour essayer d'éviter un autre. Alors, moi, je trouve qu'il faut qu'on parle de cette option de la paix. Et je trouve que l'art, le cinéma, la musique, on a vu avec le projet d'orchestre de Divan, font quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas si efficace comme les mitrailleuses ou la politique. Il faut commencer quelque part.
Est-ce qu'en Israël, on connaît votre travail, on connaît le travail aussi d'écrivains qui essayent d'œuvrer dans le sens de rendre la culture un objet de combat? Est-ce qu'il reste des artistes engagés en Israël, beaucoup, suffisamment pour se faire entendre?
Écoute, c'est pas facile parce que le pouvoir actuel, il est très hostile à toute cette chose. Avec le ministre de Culture qui ferme le seul théâtre arabe de ma ville natale, qui est féroce contre les gens cinéastes qui si, ont envie d'exprimer quelque chose de nécessaire. Alors c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Alors, mais comme je dis, vous savez, comme Picasso, il a fait Guernica après les bombardements de Luftwaffe sur les villages basques. Mm. Il a interdit le voyage de ses tableaux en Espagne tout au long de la vie de Franco. Et c'est seulement après que la démocratie espagnole était réinstallée, le MoMA a été obligé, malgré qu'ils n'étaient pas très contents. Actuellement, c'est dans le magnifique musée de Reina Sofia où j'ai eu le plaisir de, l'année dernière de faire un grand expo. Alors je trouve que la culture, c'est plutôt un projet à la fois de laisser des traces. Et espérons que les mémoires et les traces vont faire leur chemin, mais c'est pas si immédiat. Mais c'est, écoute, si aujourd'hui on a des souvenirs de Velázquez, on ne se souvient pas exactement qui était le Bourbon qui dirigeait l'Espagne d'époque. Alors la culture et l'art, ils sont importants.
En 2000, vous avez réalisé le film Kippour, et dans ce film vous avez fait appel à Yann Garbarek.
Oui, on a utilisé la musique de Yann Garbarek, surtout cette magnifique machine de wind machine dans laquelle produit, je sais pas quel fragment vous avez choisi, apparemment pas celui-là.
Non. On a choisi des folk songs.
Oui, ok, alors restons avec les folk songs.
En tout cas, lui, c'est un musicien aussi très ouvert sur le monde, c'est pour ça que je vous posais la question à Mosquita, et quelqu'un, un saxophoniste suédois qui s'est toujours laissé porter par certains vents, les vents toujours de la contemporanéité maximale. Là, il est donc avec Charlie Adden, le contrebassiste, et Egberto Gismonti, guitariste. Ils interprètent Forturia. C'est bon aussi d'avoir un peu de nostalgie.
Thank you.
Yann Garbarek qui joue du saxophone comme du nez presque, l'instrument plutôt du côté de la Turquie, avec Charlie Adan et Egberto Gismonti, ça s'appelle Forturia. Et on va finir avec vous, Amos Gitai, avec une fugue de Bach. Et en fait, en écoutant cette fugue numéro 10 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Edna Stern au piano, donc je me disais, au fond, j'ai l'impression que vous concevez le cinéma un petit peu comme l'architecture et comme cette musique-là, cette façon de mettre des pièces les unes au-dessus des autres, les unes après les autres.
Tout à fait. Et même le raconte avec Edna Stern, qui va faire partie des prochains travaux que je vais faire au cours au Palais des Papes à Avignon.
Donc, pendant l'été.
Là, pendant l'été, le 10 juillet. Toujours sur l'assassinat des rabbins raconté par trois femmes, par Hana Shigula, par Iyam Abbas, la grande actrice palestinienne, et par Sarah Adler. Edna Stern, elle va nous jouer le Bach au piano, Alexei Kochakov à violine, et après peut-être j'ai en train de jouer avec l'idée de mettre en partie de Matthäus Passion de Bach aussi, mais Bach il est tellement... Vous avez justement dit qu'il est architectural, c'est-à-dire qu'il est mathématique. C'est vraiment divin. Alors j'ai très ce challenge de incarner cette pièce de théâtre sur l'assassinat de Rabin au Grand Palais.
Sans les images cette fois-ci, sans le...
Quelques images vont être projetées sur le mur du Palais des Papes. Parce que je trouve qu'effectivement, comme on a dit tout à l'heure, il faut que les mémoires restent, qu'il fait son chemin, que même les forces qu'il arrive d'effacer les mémoires, que la paix est possible, on va travailler contre cette tendance. Il faut qu'on engrave les mémoires et les traces de cette mémoire.
La fugue numéro 10 en mi mineur de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Edna Stern. Et donc Edna Stern qui sera au Palais des Papes le 10 juillet prochain pour cette pièce de théâtre que vous avez montée à Amos Gitai et qui s'appelle
Yitzhak Rabin,
Chronique d'un assassinat au Palais des Papes. Donc, et puis alors vous prévoyez de faire aussi, de mettre en scène un Othello de Rossini en Italie.
Oui, j'ai reçu cette proposition de faire le... Othello de Rossini, c'est exactement des 100 ans, jour par jour, parce que Rossini l'a fait son premier en 1816, on est 2016, alors ça va être fin novembre, je vais aller répéter à San Carlo, qui est une magnifique maison d'opéra de Naples.
Quelle aventure!
France Inter, vous avez dit classique? Elsa Boublil.
Alors pour finir, Amos Gitai, un travail architectural au violoncelle, en tout cas de superposition de morceaux qui, j'espère, vous plaira. Il s'agit du violoncelliste Vincent Courtois qui écrit sa musique en pensant à des images. Donc il y a quelque chose dans sa démarche de très cinématographique. Et son album West nous emmène effectivement assez loin. Alors je vous propose ce titre, So Much Water, So Close to Home, où il est tout seul à jouer. Il s'est enregistré, passe en boucle certains morceaux. Il commence au violoncelle, mais on dirait de la guitare. Le voici. So Much Water, So Close to Home. Vincent Courtois extrait l'album West, qui est sorti chez la Buisson en 2014. Ça vous a plu, Amos Gitai, ce genre de musique-là?
Très bon.
J'espère que ça vous inspirera pour de prochains projets. En tout cas, merci d'être passé par là.
Plaisir.
On vous retrouve au Palais des Papes prochainement. Et puis, j'espère, dans d'autres films à venir, puisqu'on aime ce que vous faites.
Ça, merci.
Merci, Amos Gitai.